divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la libre pensée.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours.
Auditrice, auditeur, bonjour. Au micro, David Gozlan, secrétaire général de la Fédération nationale de la libre pensée. Je suis accompagné aujourd'hui de Dominique Gousseau. Bonjour Dominique.
Bonjour David.
Dominique, qui est membre de la Commission nationale de la libre pensée, la Commission administrative nationale, mais aussi qui est un des responsables de droit et laïcité au sein de la libre pensée. Aujourd'hui, nous allons parler donc d'un thème qui est un thème d'actualité, parce que dans la rue, vous avez d'ores et déjà, toute cette semaine, peut-être entendu cela. Et oui, vous avez entendu cela cette semaine. Il s'est passé effectivement énormément d'événements sociaux. Mercredi dernier, le 9 mars, des grandes manifestations se sont déroulées dans le pays. Alors pourquoi la libre pensée s'intéresse-t-elle à ces sujets-là? Pourquoi elle s'intéresse à l'actualité sociale? Eh bien, nous allons vous l'expliquer. Tout d'abord, cette question du code du travail. Dominique, qu'est-ce qu'en fait le code du travail?
Alors d'abord, avant d'aborder ce sujet, je pense qu'il faut tordre le cou à une idée reçue selon laquelle le marché du travail serait particulièrement rigide en France. C'est exactement le contraire qui est la vérité, puisque actuellement, la majorité des contrats de travail qui sont signés avec les nouveaux salariés sont des contrats à durée déterminée. Peut-être qu'il serait intéressant, d'une part, de rappeler la raison d'être du code du travail et d'autre part de rappeler ou d'expliciter le contenu de l'avant-projet de loi qui sera examiné par le Conseil des ministres du 24 mars prochain. Alors pour ce qui est de la raison d'être, le code du travail a été créé en 1910 pour rassembler divers textes qui étaient épars dans l'ordre juridique national et notamment incorporer la grande loi de 1884 introduisant la liberté syndicale. Alors cette année 1910 n'est pas tout à fait un hasard puisque c'est également l'année au cours de laquelle on a créé les retraites ouvrières et paysannes qui est le premier système de retraite qui a existé dans notre pays institué par l'État. Alors progressivement le code du travail a pris en compte le déséquilibre au fond des deux parties au contrat de travail, d'un côté l'employeur, de l'autre le salarié qui lui est subordonné. Et le but, au fond, de la législation du travail, c'est d'éviter que ce déséquilibre ne soit trop défavorable aux salariés. Alors, pour réduire ce déséquilibre, le droit du travail a d'une part introduit des dispositions législatives et réglementaires qui protègent les travailleurs, par exemple la sécurité au travail. D'autre part, il crée une catégorie spécifique de contrat civil qui est le contrat de travail à durée indéterminée, qui est le contrat de droit commun. Enfin, il a donné un cadre juridique à la négociation collective, qui est une source essentielle de droits protecteurs pour les salariés. Alors, quel est le contenu de la réforme actuelle?
Elle a déjà une origine parce qu'elle vient de plusieurs rapports. C'est à la fois le rapport Combrexelle, si j'ai bien compris, et le rapport Badinter qui ont été quelque part fusionnés pour donner ce projet de loi.
Alors effectivement, plusieurs rapports ont été remis au Premier ministre pour préparer cette loi. Et donc cet avant-projet reprend en partie les préconisations de ces rapports. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'avant-projet de loi El Khomri contient une disposition qui prévoit une réforme en profondeur du code pendant plusieurs années.
D'accord.
Ça, c'est le premier point. Alors, quels sont les trois éléments importants à retenir de l'avant-projet actuel? D'une part, il y a ce qu'on appelle l'inversion des normes en matière de droit du travail. Le régime actuel est le suivant. La loi fixe un socle de droits. Les accords de branche peuvent aller bien au-delà de la loi et peuvent être étendus à l'ensemble du pays, ce qui fait que ça répond au principe d'égalité qui régit la République. Et puis l'accord d'entreprise, lui, ne peut aller qu'au-delà de l'accord de branche, il ne peut jamais aller en deçà. Voilà quel est le système actuel. Quel est le régime envisagé ? Le régime envisagé aurait pour effet d'accroître les accords d'entreprise qui pourront être moins favorables que les accords de branche. Ça s'est pratiqué dans d'autres pays, l'Espagne ou le Portugal, et on a vu le nombre d'accords de branche être réduit à la peau de chagrin, parce que évidemment, l'essentiel pour les employeurs, ce sont, dans un tel cadre juridique, les accords d'entreprise. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans les deux ans, l'avant-projet de loi prévoit une réécriture totale du code qui distinguerait trois niveaux. Les règles obligatoires d'ordre public, la négociation collective avec une préférence donnée à l'accord d'entreprise, et enfin, en cas d'absence d'accord, des dispositions supplétives en cas d'échec de la négociation qui pourront remettre en cause les droits acquis, notamment dans les accords de branche actuels. Alors, ce dispositif conduit au détricotage progressif de tout l'ordre juridique actuel en matière de droit du travail. Deuxième aspect, c'est le contournement des syndicats.
Oui.
Actuellement, la négociation collective est le monopole des organisations syndicales représentatives. Je tiens à rappeler d'ailleurs à ce sujet qu'il y a eu, il y a quelques années, une réforme de la représentativité des syndicats qui repose désormais non plus sur le fait qu'il y a une preuve irréfragable de représentativité, mais sur la base des résultats électoraux. Et il faut qu'une organisation ait 10% des salariés d'une entreprise qui vote pour elle afin qu'elle soit représentative, même si nationalement elle l'est. Ce qui pose quand même des problèmes. Et pour signer des accords, il faut réunir un certain nombre de voix aux élections professionnelles. Alors comment on va contourner au fond le rôle des syndicats ? Eh bien en introduisant un référendum à l'initiative de l'employeur, et on sait très bien que les référendums, au fond, ils sont toujours réussis dans la mesure où la question posée appelle tout à fait appelle une réponse qui est connue d'avance. On aura si le texte aboutit à son terme, on aboutira à des accords d'entreprise adoptés par référendum et non pas sur la base de la négociation collective par des organisations syndicales représentatives.
Alors, d'accord, nous comprenons très bien, à la fois ça vient d'autres rapports, ça a une incidence sur les syndicats. Alors quand je disais ça vient d'autres rapports, il est vrai que le rapport Combrexelle disait la chose suivante, il suffirait de le réduire, le code du travail, d'une façon drastique et de libérer ainsi des espaces au profit de la négociation, ce que tu viens d'expliquer. Enfin, libérer des contraintes législatives et réglementaires multiples, les acteurs syndicaux et professionnels se saisiraient des nouveaux espaces de liberté au profit d'un dynamisme retrouvé de la négociation. Et nous avions écrit « Vous forgez une chaîne et vous l'appelez liberté », tout en citant, là c'était une citation de Victor Hugo, mais c'est exactement ce que le rapport Combrexelle impliquait. Comment ne pas percevoir avec tout cela, avec ce que tu viens d'expliquer Dominique, ce sont des protections diminuées et qu'effectivement ce sont les syndicats qui sont en cause? Et nous avons justement interviewé deux responsables syndicaux des unions régionales Île-de-France, CGT et Force ouvrière, nous vous les passons.
Pascal Joly, secrétaire général de l'Union régionale Île-de-France CGT.
Merci.
Gabriel Gonny, secrétaire général de l'Union régionale Île-de-France CGTFO.
Très bien, bah écoutez messieurs, je vous remercie. Nous sommes en plein milieu de la manifestation du 9 mars. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques phrases pourquoi cette manifestation ?
Notre mot d'ordre essentiel, il est très clair. Il faut retirer ce projet de loi concernant le code du travail. Et en ce qui concerne la CGT, nous on est pour une véritable négociation sur des bases complètement nouvelles, c'est-à-dire sur la base d'une feuille blanche, et pas seulement une concertation, mais une véritable négociation avec un rapport de force qui est en train de se créer, parce que nous on tient à négocier avec un rapport de force, et on considère qu'aujourd'hui c'est une première journée de mise en jambe sur un mouvement, un processus de mouvement, y compris jusqu'à la grève, qui va nous conduire dans les prochains jours, à mon avis, à faire monter encore le rapport de force. Et je dis aux gens, aux jeunes et aux moins jeunes, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Les conditions dans lesquelles on veut vous faire travailler aujourd'hui et demain avec ce projet de loi, ce sont des conditions qui ne sont pas acceptables pour la CGT. Donc on va continuer le mouvement, nous, en ce qui nous concerne.
Très bien. Et pour vous, pour Force Ouvrière ?
Bien, pour Force Ouvrière, nous avons été amenés à négocier et à discuter avec nos camarades de la CGT, de la FSU et de Solidaire dans la dernière période pour se baser sur des mots d'ordre très clairs par rapport à la loi El Khomri. Et donc nous sommes sur une position qui est tout à fait identique à celle de nos camarades de la CGT, puisque nous sommes pour le retrait du projet de loi, bien évidemment. Nous considérons que ce texte, comme l'a indiqué d'ailleurs la Confédération Force Ouvrière, n'est ni amendable ni négociable. Autrement dit, ce texte doit être revu totalement, effectivement. Il doit y avoir de véritables négociations qui doivent se conduire. Et nous estimons qu'il est terriblement dangereux aujourd'hui, pas simplement d'ailleurs sur ce qui est mis en exergue par rapport aux indemnités de licenciement au niveau des conseils de prud'hommes, mais également sur des points qui sont ceux liés aux négociations, et particulièrement aux négociations de branches qui disparaissent pour être remplacées par des négociations en entreprise, avec des pressions qui s'exerceront du côté du patronat pour faire davantage de licenciements, davantage de flexibilité. Et donc ces points, notamment également celui des référendums à l'intérieur des entreprises, conduit à faire en sorte qu'il y a des attaques très fortes, bien évidemment et d'abord avant tout contre les salariés, ceux qui sont privés d'emploi aujourd'hui et qui ne retrouveront pas la voie de l'emploi, et également pour toutes les organisations syndicales qui sont menacées par les dispositions prises aujourd'hui au niveau de la loi El Khomri.
Très bien. Alors, un des arguments des détracteurs, ou en tout cas de ceux qui avancent cette loi-là, des promoteurs plutôt de la loi, c'est de dire que le code de travail est trop vieux. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Trop vieux. Justement, nous on leur propose d'avoir un nouveau code du travail très progressiste, très protecteur pour les salariés et qui peut être complètement neuf par rapport à celui d'aujourd'hui. Mais je voudrais quand même dire que tout au long de ce mois va être rythmé par différentes initiatives, des journées de rendez-vous, et qu'il va y avoir un gros temps fort où la FO et la CGT sont engagés aux côtés de la FSU et de Solidaires et des organisations de jeunesse telles que l'UNEF, la FIDEL et l'UNEL, et que le 31, il faut vraiment qu'on ait une grosse journée de grève et de manifestation partout dans tout le pays, que ça chauffe dans les entreprises, que ça se mobilise dans les entreprises par tous les moyens, y compris par le moyen de la grève, parce que je crois qu'il est temps de stopper ce gouvernement qui, depuis 2012, mais même avant, s'était engagé avant, mais depuis 2012, n'a eu de cesse que de donner satisfaction au patronat, au grand patronat, et d'amputer les droits des salariés. Et ce code du travail est quand même un peu le paroxysme des attaques contre le monde du travail. Et là, on ne laissera pas faire. Nous, la CGT, on ne laissera pas faire.
C'est quelque chose à rajouter pour Force Ouvrière ?
Je crois que je n'aurai pas grand-chose à rajouter. Je suis en total accord. Quand mon camarade Pascal dit, en tous les cas, en ce qui concerne la CGT, nous sommes bien d'accord, puisque nous avons eu des réunions qui étaient des réunions interrégionales, qui nous ont conduits à décider ensemble qu'il y avait une nécessité absolue de faire en sorte qu'il y ait la grève interprofessionnelle qui puisse être déclenchée. Ça sera le 31 mars. Et nous indiquons d'une façon d'ailleurs très claire pour ce qui nous concerne que cette grève du 31 mars avec les organisations de jeunes et avec les organisations syndicales doit conduire au retrait. Et nous disons d'ailleurs dans nos papiers jusqu'au retrait du projet de loi. Ça me paraît être une nécessité absolue, et la mobilisation, comme le disait Pascal, doit continuer. Nous sommes dans une situation qui nous amène d'ailleurs à dire qu'on ne lâchera rien, comme on l'a fait d'ailleurs contre la loi Macron, et même y compris si nous devons ponctuer jusqu'au 31 mars ensemble pour des actions qui conduiront par exemple le jour du passage en Conseil des ministres à dire nous sommes là et vous allez voir que nous irons jusqu'au bout de notre démarche et jusqu'au retrait du projet de loi.
On sera au rendez-vous aussi.
Bah messieurs, je vous remercie
bien,
beaucoup.
Bah écoutez, merci. Vous venez d'entendre Pascal Joly pour l'URIF CGT et Gabriel Gaudy pour l'URIF Force Ouvrière.
Dominique, pour terminer un petit peu cette émission, là c'était vraiment illustratif, j'ai dit, la libre-pensée s'occupe effectivement et s'intéresse à cette question du code du travail. Mais cette question du code du travail recoupe aussi toutes les questions de laïcité. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Alors, je pense que, on en parle peu, mais l'avant-projet de loi pose d'autres problèmes. Le premier, c'est d'abord qu'il réduit le rôle du juge en matière d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse, puisqu'on va introduire un barème, et il éloigne également le juge de la qualification, enfin, des licenciements économiques, puisqu'on déterminera dans la loi les critères qui fixent l'existence, le bien fondé du licenciement économique. Il y en a d'autres qui touchent aux droits fondamentaux eux-mêmes et aux libertés fondamentales des salariés. Actuellement, l'article L1121-1 du Code du travail dit « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche accomplie ». Cela veut dire que on examine au cas par cas, pour des raisons tenant au travail effectué, les restrictions éventuelles des libertés fondamentales des citoyens que restent les travailleurs, bien évidemment. Cela entraîne le principe de non-discrimination qui est largement décrit dans l'article 1132-1 du code actuel. Et la nouvelle rédaction du premier article que j'ai cité, donc L1121-1, nous laisse penser que ces droits fondamentaux vont être mis en cause.
Oui.
Puisque ce n'est plus la nature de la tâche accomplie qui sera le critère, mais le bon fonctionnement de l'entreprise, et la restriction ne sera pas individuelle, mais elle sera collective pour l'ensemble des salariés. Et ça, c'est une atteinte notamment à la liberté de conscience qui, pour nous, est essentielle.
Très bien. Bah, écoute, Dominique, je te remercie. L'émission se conclut sous la couette pour certains auditrices, certaines auditrices et certains auditeurs, peut-être devant un café, mais je vous suggère comme livre du mois pour la laïcité en Europe, que vous pouvez commander sur le site de la FNLP, fnlp.fr. C'est un livre collectif de 228 pages que vous pourrez obtenir pour la somme modique de 16 €, frais de port compris, 16 €. Vous envoyez cela à Libre Pensée, 10-12 rue des Fossés Saint-Jacques, 75 005 Paris, accompagné d'un chèque à l'ordre de Libre Pensée, et vous aurez ce livre magnifique pour la laïcité en Europe. Je vous remercie.
Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.